Voltaire, lettre 20, sur les seigneurs qui cultivent les lettres. Il a été un temps en France où les beaux-arts étaient cultivés par les premiers de l'État. Les courtisans surtout s'en mêlaient, malgré la dissipation, le goût des riens, la passion de l'intrigue, toute divinité du pays. Il me paraît qu'on est actuellement à la cour dans tout un autre goût que celui des lettres. Peut-être, dans peu de temps, la mode de penser reviendra-t-elle. Un roi n'a qu'à vouloir. On fait de cette nation-ci tout ce qu'on veut. En Angleterre, communément, on pense, et les lettres y sont plus en honneur qu'en France. Cet avantage est une suite nécessaire de la forme de leur gouvernement. Il y a à Londres environ 800 personnes qui ont le droit de parler en public et de soutenir les intérêts de la nation. Environ 5 ou 6 000 prétendent au même honneur à leur tour. Tout le reste s'érige en juge de ceci et chacun peut faire imprimer ce qu'il pense sur les affaires publiques. Ainsi, toute la nation est dans la nécessité de s'instruire. On n'entend parler que des gouvernements d'Athènes et de Rome, il faut bien, malgré qu'on en ait, lire les auteurs qui en ont traité. Cette étude conduit naturellement aux belles lettres. En général, les hommes ont l'esprit de leur état. Pourquoi d'ordinaire nos magistrats, nos avocats, nos médecins et beaucoup d'ecclésiastiques ont-ils plus de lettres, de goût et d'esprit que l'on en trouve dans toutes les autres professions? C'est que réellement leur état est d'avoir l'esprit cultivé comme celui d'un marchand et de connaître son négoce. Il n'y a pas longtemps qu'un seigneur anglais fort jeune me vint voir à Paris en revenant d'Italie. Il avait fait en vers une description de ce pays-là, aussi poliment écrite que tout ce qu'ont fait le comte de Rochester et nos Chaulieu, nos Sarrasins et nos Chapelles. La traduction que j'en ai faite est si loin d'atteindre à la force et à la bonne plaisanterie de l'original que je suis obligée d'en demander sérieusement pardon à l'auteur et à ceux qui entendent l'anglais. Cependant, comme je n'ai pas d'autre moyen de faire connaître les vers du Milord, les voici dans ma langue. Qu'ai-je donc vu dans l'Italie? Orgueil, astuce et pauvreté, grand compliment, peu de bonté et beaucoup de cérémonie. L'extravagante comédie que souvent l'Inquisition veut qu'on nomme religion, mais qu'ici nous nommons folie. La nature en vain bienfaisante veut enrichir ces lieux charmants. Des prêtres, la main désolante, étouffent ses plus beaux présents. Les monsignors, soi-disant grands, seuls dans leurs palais magnifiques, y sont d'illustres fainéants, sans argent et sans domestique. Pour les petits, sans liberté, martyrs du joug qui les domine, ils ont fait vœu de pauvreté, priant Dieu par oisiveté et toujours jeûnant par famine. Ces beaux lieux, du pape béni, semblent habités par les diables, et les habitants misérables sont damnés dans le paradis. Peut-être dira-t-on que ces vers sont d'un hérétique, mais on traduit tous les jours, et même assez mal, ceux d'Horace et de Juvénal qui avaient le malheur d'être païens. Vous savez bien qu'un traducteur ne doit pas répondre des sentiments de son auteur. Tout ce qu'il peut faire, c'est de prier Dieu pour sa conversion, et c'est ce que je ne manque pas de faire pour celle du Milord.